Marc Eiskens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes homme politique, notamment ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. Alors récemment, dans l'affaire des visas iraniens et de la polémique autour de la ministre des Affaires étrangères Adjal Habib, vous vous êtes exprimé. Et alors que de nombreux députés se sont montrés virulents envers la ministre Habib, que ce soit dans la presse, dans les médias, ou sur les réseaux sociaux, vous avez pris la défense d'Adjal Habib en mettant en évidence la complexité du dossier qui la concerne. Alors pour vous, où se trouve finalement la gravité dans les récentes actions de la ministre des Affaires étrangères ?
Mais cette gravité, elle est un peu construite à partir d'accusations venant de l'extérieur, qui sont des accusations à caractère partisan. Il ne faut pas oublier que Mme Habib était considérée par la MR comme un pion devenant extrêmement populaire à Bruxelles, qu'on allait donc essayer de valoriser lors des prochaines élections. Donc le fond de l'affaire est quand même un peu électoral. L'aspect réel du dossier, là je dois dire que en effet il y a une certaine complexité puisqu'il y avait eu des initiatives partant d'abord du secrétaire d'État flamand de la région de Bruxelles, M. Smets, qui avait accepté de promouvoir la visite en Belgique du maire de Téhéran et quelques-uns de ses acolytes. Bon, puis il y a eu une procédure assez compliquée, mais pour être bref et simple, imaginez-vous un instant un scénario inversé. Il y a donc une demande de la part de M. Smets pour laisser entrer le bourgmestre de Téhéran au cours d'une période où Mme Habib est confrontée à des négociations extrêmement délicates pour la libération des otages belges, au moins de M. Van de Kaste, et peut-être aussi d'autres otages européens. Ce sont des négociations extrêmement difficiles. Et qu'au cours de ces négociations, tout d'un coup, cette même Mme Habib aurait refusé un visa pour le maire de Téhéran, qui est un personnage en Iran. Cela, probablement, aurait eu comme conséquence que les Iraniens auraient carrément rompu les négociations, que M. Van de Kaste serait encore resté en prison, dans des conditions épouvantables et horribles, avec des menaces pour sa santé personnelle, et que au Parlement, on aurait évidemment, peut-être plus ou moins avec raison, accusé Mme Habib d'avoir mis en danger la vie même de M. Van de Kaste en refusant la venue du bourgmestre de Téhéran. C'était ça l'importance du dossier, à mon avis, qu'on n'a pas assez souligné et expliqué lors des débats parlementaires.
Mmh. Alors, pour certains députés, malgré tout, malgré le dossier d'Olivier Van de Kaste, Adjal Habib a cédé au chantage iranien. Est-ce que c'est aussi simple que ça, finalement ?
Non, ça n'est pas aussi simple. Il y a un chantage de part et d'autre, évidemment, dans une situation pareille, n'est-ce pas ? On peut prendre une attitude tout à fait principielle, mais alors, évidemment, on sacrifie la vie des victimes. Comme l'a dit M. De Croo, Premier ministre, une vie humaine est plus importante que l'octroi d'un visum. Oui.
Alors on voit quand même que Adjal Habib bénéficie du soutien de son parti, le MR et également de l'Open VLD. Cependant, au sein de la majorité, on a les socialistes et les écolos flamands et francophones qui restent sceptiques et qui ne sont pas convaincus par ses excuses parce que la ministre s'est en effet excusée ce lundi. Alors, jeudi, la Chambre va se prononcer en plénière sur les motions déposées en conclusion des interpellations de la ministre Habib. Est-ce que vous pensez qu'elle va regagner la confiance du Parlement ou bien elle va être contrainte de démissionner ?
Non, elle va l'emporter. La majorité va déposer une motion simple, à savoir simplement considérer que le débat est clos et qu'on passe à d'autres problèmes, sans exprimer formellement la confiance ou la méfiance à Mme Habib. Simplement dire, voilà, le débat est clos, on a eu des explications, on passe à un autre point d'ordre. Mmh. Mais l'opposition va faire évidemment un cinéma, ça c'est clair. À commencer par la LVA, l'Angolan, ça c'est évident.
Eux, ils demandent clairement sa démission. Ils l'ont demandé, ils ont posé une motion de défiance. Est-ce que finalement, elle va être entendue, cette motion? Non, hein.
Non, pas du tout. Et plus évidemment, le Vlaams-Belang et la LDA soulignent la nécessité de renvoyer Mme Labib à ses chères études. Plus évidemment, la majorité trouve un argument pour ne pas la sacrifier. Les excès de l'opposition affaiblissent au fond l'efficacité de l'opposition. Ouais.
Alors Alexander De Croo, le Premier ministre, il soutient évidemment sa ministre des Affaires étrangères. Et pour lui, comme vous l'avez dit, hein, Mark Haskins, il est temps de clore ce dossier de visa iranien et de tourner la page, car d'autres dossiers sont sur la table du gouvernement à un an des élections. On imagine que vous êtes d'accord avec le Premier ministre De Croo?
Tout à fait. L'opinion publique et surtout l'ennemi politique semblent oublier la gravité de notre situation. Aussi longtemps que le problème des pensions et le financement des pensions n'est pas résolu, la Belgique n'obtiendra pas un subsidie extrêmement important en provenance de la Commission européenne. Il s'agit de 2 milliards qui sont suspendus. Il y a la réforme fiscale qu'il faut évidemment réaliser. Il y a le dossier énergétique qu'il faut clore. Et il y a tout le problème climatique, etc. Donc il y a d'énormes dossiers qu'il faut régler, s'il y a moyen, encore avant les vacances. Ouais.
Une dernière question, Mark Haskins. Lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères en 1991, vous avez vous-même connu une situation similaire, là aussi pour une histoire de visa. Alors moi, personnellement, en 1991, je n'étais pas née, donc je ne m'en souviens pas. Mais est-ce que là, vous étiez vous aussi dans une position aussi délicate que celle d'Adja Labib en ce moment?
Mais là aussi, j'ai été victime de l'excès de zèle de l'opposition. Mais les deux cas ne sont pas comparables. À l'époque, le visa pour un soi-disant terroriste, Walid Khaled, avait été délivré par le consulat de Belgique à Beyrouth. Il est évidemment totalement impossible d'exiger du étranger d'être au courant, même d'approuver tous les visas délivrés par le ministère chaque année. Il s'agit de centaines de milliers de visas. Mais j'avais évidemment certaines responsabilités. J'ai été handicapé par le secret d'État. C'est-à-dire que mon collègue français à l'époque, Roland Dumas, m'avait confié que ce monsieur Walid Khaled, soi-disant un terroriste, avec lequel on avait négocié la libération de 3 otages belges, que ce monsieur était un agent double et travaillait aussi pour les services d'intelligence français. Et que je ne pouvais pas en parler, car si j'avais révélé ce secret d'État, Walid Khaled aurait été abattu immédiatement par ses soi-disant collègues au Liban. Donc je me suis tué, ce qui a affaibli ma défense. Moi, j'ai quand même eu la confiance du Parlement et j'ai simplement clos le dossier. Et à vrai dire, 3 mois plus tard, la presse, j'ai lu dans Le Monde que M. Walid Khaled avait été assassiné, tué à Beyrouth par des terroristes, probablement parce que ceux-là avaient alors appris que Walid Khaled travaillait pour les Français. C'est ça l'affaire. Mais ça n'est pas comparable avec le cas de Mme Labib.
Non, effectivement. Merci beaucoup, Mark Haskins, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes homme politique, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères en Belgique, entre autres. Merci beaucoup à vous.
Je vous en prie, un grand merci.